Alors, projet éducatif de territoire, on a pris acte. Hein, je rappelle que c'est une prise, on prend acte, il n'y a pas de vote. Projet éducatif de territoire, Madame Bory.
Oui, merci Monsieur le Maire. L'école et l'éducation sont le cœur battant de notre ville. Depuis 2008, nous avons considérablement renforcé notre soutien aux écoles et développé des actions éducatives de qualité accessibles à tous. Dans la continuité de cette dynamique d'amélioration et dans le respect de la loi de refondation de l'école, nous nous sommes engagés dès 2013 à mettre en œuvre un projet éducatif de territoire qui a été signé en 2014 par l'Éducation nationale, la délégation départementale de la cohésion sociale, la CAF, et bien entendu la ville. Le PEDT est un outil qui permet de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées en dehors du temps scolaire. Il permet la mise en cohérence des actions éducatives sur les territoires et laisse toute sa place à l'expérimentation et aux projets des acteurs de proximité que sont les enseignants, les collectivités, les parents et les associations. Dans la continuité du précédent PDT, ce projet transitoire sur l'année scolaire 2017-2018 va nous permettre de poursuivre l'évaluation que nous avons déjà initiée avec un retour des questionnaires envoyés aux parents, aux enseignants et aux agents et aux associations, déjà fort intéressant. Le Conseil municipal des enfants participe également à cette évaluation. Ce temps va nous servir à évaluer les acquis et on peut dire qu'ils ne sont pas négligeables dans plusieurs domaines. L'amélioration du dialogue avec la communauté éducative, avec le développement des supports de communication, l'espace famille, la lettre aux parents, le guide des directeurs et des agents, mais aussi, je l'ai là, le mémo de rentrée pour tous les parents, mais aussi des forums, l'organisation de forums, donc il y a aussi, c'est un lieu de débat, assises régionales de l'éducation partagée et rencontres nationales et même transfrontalières des villes éducatrices sur le thème des mixités. Il y a ensuite l'amélioration de la prise en charge des enfants avec la structuration et la coordination des équipes d'encadrement rendues possibles par la mise en place de référents de territoire issus de la réorganisation du pôle ainsi que des chargés d'animation. L'amélioration de la continuité éducative. Aujourd'hui, des projets communs existent entre écoles et associations. L'enrichissement des temps scolaires avec le dispositif artiste en résidence, écolier au spectacle, mais aussi en investissement avec le déploiement de l'outil numérique dans chaque école. L'enrichissement des temps périscolaires avec la programmation d'entracte, mais également en investissement, la création d'espaces de repos et de trois nouveaux restaurants d'ici 2020. Mais ce temps va aussi servir à travailler sur les prochaines orientations et actions à mener pour la période 2018 et 2021, à nous projeter dans le prochain PEDT qui pourrait être élargi à la petite enfance, car il nous faut développer les liens entre les crèches et l'école maternelle, entre les personnels de la petite enfance et les enseignants, mais également à la jeunesse qui est en charge des jeunes et particulièrement durant les vacances. Tous ces objectifs sont au service d'une ambition, celle de l'épanouissement, la réussite éducative et l'émancipation des jeunes Messins. L'éducation est l'affaire de tous. Il revient à chacun de s'emparer des propositions, de les faire partager, de les mettre en œuvre et d'en construire des nouvelles. La motion est en conséquence.
Merci, madame. Madame Bérangère Thomas.
Je vous remercie, monsieur le maire. Alors, le point 4, éducation du territoire, soulève le problème de cette fameuse semaine des 8 jours et demi, enfin des 8,5 jours, deux demi-journées ou des 9 demi-journées. Ce dispositif était depuis le décret adopté. Ce dispositif a été depuis le décret adopté en juin laissé à la libre appréciation des communes. Il concerne à Metz 3672 enfants de 3 à 5 ans et 7001 enfants niveau primaire, soit presque 10 000 enfants tout de même. À la rentrée 2017 et face à des difficultés persistantes dans la mise en œuvre de cette semaine de 9 demi-journées. 43,39% des communes françaises sont revenues au dispositif précédent. Selon les premières études, ce retour en arrière ne correspond pas forcément à un critère de richesse, de moyens, de situation géographique, mais sans doute à une réflexion plus approfondie entre l'école, les parents et les institutions, avec ces deux questions fondamentales. Pourquoi fatiguer davantage les enfants avec une multitude d'activités et cette notion d'animation par projet ? Qui n'offre pas une réelle situation d'apprentissage de savoir-faire. Pourquoi prendre sur le temps de l'école et éloigner l'école du cœur de sa mission de dispenser les apprentissages fondamentaux à tous les enfants en âge d'être scolarisés et d'avoir les moyens en temps et personnel pour remédier aux inégalités scolaires. Un bilan dont les résultats doivent être communiqués le 22 novembre prochain doit pouvoir répondre à cette question. À qui profite la semaine de 4 jours et demi ? Or, Quand nous voyons le listage de freins au PEDT, c'est-à-dire 68 écoles avec 23 cantines, qui sont elles-mêmes parfois des lieux de périscolaires, quand on voit que le temps de transport des enfants joue sur le temps de périscolaire, c'est-à-dire un temps en moins sur le temps dit éducatif et la pause méridienne, quand on voit la configuration des écoles et des cantines qui ne sont pas forcément adaptées à avoir des espaces éducatifs, selon les activités périscolaires, quand on voit la lourdeur pour la gestion des animations, 15 chargés d'animation pour 300 intervenants, quand on sait qu'il y a des associations qui sont qualifiées et qui demandent d'autres équipements, par exemple quand on veut pratiquer de la danse, que simplement avoir une salle avec des activités communes, on peut s'interroger. Notre nouveau ministre de l'Éducation, face au constat de l'échec scolaire, impulse une réflexion et une position nouvelle pour ce qui concerne les retours à la mission fondamentale de l'école primaire, comme étant à la base de la formation de l'enfant et la clé de voûte de notre système éducatif. Constater 20% d'élèves déclarés en difficulté à l'entrée en 6e et selon le classement PISA, un niveau scolaire français qui régresse de façon alarmante et nous place au 27e plan sur 70 pays. Il serait important de réaliser que les communes sont actrices dans la formation des élèves et de notre système éducatif et que, loin des grands principes, il est nécessaire de revenir avec plus de bienveillance au mieux-être des enfants. Notamment quand on voit inscrit que dans les dispositifs périscolaires, il y a même des sortes de cellules de réflexion sur le harcèlement à l'école, sur les inégalités, tout ce qui concerne vraiment le mieux-être entre enfants. Il y a tout de même des incohérences, parce qu'avant tout, un enfant il a besoin d'espace à lui, d'espace aussi pour se mouvoir. On sait pertinemment qu'il y a beaucoup de cours d'école qui sont trop petites par rapport à la gestion de l'espace vital. Quand on a aussi cet aspect de voir qu'avec une demi-journée, avec des horaires d'école qui sont réduits, eh bien on se rend compte aussi que les maîtres n'ont plus le temps de faire le programme. Les sorties scolaires, les classes vertes sont remises en question. Et quand on aimerait mieux passer plutôt un après-midi à découvrir une ferme ou aller en pleine nature que d'avoir encore des salles avec des enseignements gérés stéréotypés, numériques, etc., etc. Le mercredi comme le jeudi que certaines générations ont pu vivre doit revenir au jour où l'on favorise les activités régulières complémentaires de l'école. Et celles-ci demandent très souvent des apprentissages comme la musique, comme le sport, comme l'expression théâtrale ou les arts plastiques, et ce qui fait réellement l'enrichissement personnel et non pas un enrichissement qui est voulu pour un groupe d'enfants où chacun ne reçoit pas forcément un bénéfice pour lui-même et surtout son parcours d'avenir. Il faut surtout voir qu'avec cette dégradation du niveau scolaire en France, on en est même allé jusqu'à l'université. On vous promet même aujourd'hui de faire des sélections. Alors il faut y réfléchir dès la base. Je vous remercie, monsieur le maire.
Merci. Alors, Madame Singer.
Merci, Monsieur le maire. Alors, il y a quelques semaines, la cloche de la rentrée scolaire a également sonné l'enterrement de première classe de la réforme des rythmes scolaires de 2013, sur laquelle vous vous étiez notamment précipité en bon élève socialiste, malgré notre levée de bouclier. Près de la moitié des communes de France, 43% exactement, ont fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours, reléguant aux oubliettes les temps d'activité scolaire, périscolaire. Plusieurs sondages démontrent que ce retour est largement plébiscité par les parents d'élèves comme par les professeurs. Par souplesse, le nouveau ministre de l'Éducation nationale a laissé le choix aux communes de déterminer le rythme scolaire qu'elles souhaitent. Le choix, monsieur le maire, un vrai luxe. À Metz, vous avez pris la décision de maintenir ces activités périscolaires, dernière survivance dogmatique socialiste du hollandisme, souvent considérée malheureusement pour certains parents comme du gardiennage, malheureusement. Et vous l'avez fait, monsieur le maire, sans vous préoccuper de la vie justement de ces parents d'élèves qui voient leurs enfants fatigués et irritables dès le jeudi soir. Il ne s'agit pas d'un caprice, mais bien et bien du retour d'expérience des parents qui sont les plus à même de juger de ce qui est bon pour leurs enfants. Ah bon ? Monsieur le maire, une fois encore, je suis au regret de constater que vous n'êtes pas à l'écoute de vos administrés. Mais rassurez-vous, cette écoute attentive, nous l'avons eue pour vous. Notre groupe Rassemblement pour Metz a fait le job et nous avons passé plusieurs mois sur le terrain, devant nos écoles primaires et maternelles, avec un questionnaire pour poser des questions aux parents et un bilan que nous tenons d'ailleurs à votre entière disposition. Ainsi, c'est près de 85% des parents qui constatent que leurs enfants sont plus fatigués, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la semaine de 4 jours et demi. D'autant plus que vous ne prenez même pas en compte les différences des rythmes entre les élèves de maternelle et celui des primaires, ce qui est une preuve de plus, monsieur le maire, de votre erreur, car il est acquis par tous qu'un élève de maternelle, par exemple, a besoin d'un temps de repos plus important oui. qu'en primaire. Et donc, c'est au nom de ces parents d'élèves et des professeurs que nous avons rencontrés que je vous demande ce soir de revoir votre copie pour une nouvelle fois être en phase avec vos administrés. Je vous remercie.
Merci, madame Collin-Stallet.
Oui, monsieur le maire, beaucoup de choses viennent d'être dites. C'est vrai que malgré le peu de temps finalement qui a été laissé aux maires des communes pour revenir à cette semaine de 4 jours, effectivement plus de 40% des communes y sont revenues, ce qui montre bien qu'il y avait une réelle attente sur ce sujet. Alors, c'est aussi pour une raison de timing que certaines communes ont préféré prendre le temps de la réflexion afin d'organiser au mieux les choses et de n'y revenir qu'à la rentrée prochaine. Alors, à Metz, ce n'est pas une question de... Je vais vous parler, monsieur le maire, je vais m'adresser à vous. Donc, voilà. À Metz, ce n'est pas une question de timing, mais plutôt d'idéologie, parce que je vous ai entendu dans une autre enceinte vous adresser aux journalistes et leur expliquer que, eh bien, oui, le choix de rester sur une semaine de 4 jours et demi, c'était un vrai choix de gauche, c'était une politique de gauche. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est madame Costi, vous pouvez dire non, c'est comme ça. Et que c'était ce qui vous différenciait de votre ami, meilleur ami, Jean-Luc Baule, maire de Montigny-lès-Metz, qui effectivement, lui, a fait le choix de revenir à cette semaine de 4 jours et dont vous disiez que finalement, il n'y avait que des raisons finalement d'économie budgétaire qui le poussaient à revenir en 4 jours et pas le bien-être de l'enfant. Alors moi, je crois que ça, c'est vraiment une vision dépassée, c'est une vraie vision caricaturale. Un projet éducatif, puisqu'on en parle, c'est quoi ? C'est d'abord et avant tout un projet qui doit favoriser l'épanouissement de l'enfant. Ce n'est pas simplement de remplir des cases, on en est tous d'accord. Et moi, j'aurais aimé, comme une grande majorité de familles messines, que l'épanouissement de l'enfant vous guide dans votre réflexion sur ses rythmes scolaires. Et je voudrais adresser un petit message à madame Bory. Ne le prenez surtout pas comme une attaque personnelle, parce que ça n'en est pas une. Mais lorsque je vous lis dans la presse dire que la fatigue de l'enfant n'est pas un argument suffisant pour revenir à la semaine de 4 jours, je vous le dis franchement, les bras m'en tombent. Enseignants, parents, enfants, clubs sportifs, institutions et associations culturelles, tous partagent le même constat. Les enfants sont fatigués dès le jeudi, l'inattention des élèves s'accroît, les parents sont désemparés, il y a un manque en plus, pour couronner le tout, de temps et de créneaux horaires pour permettre aux enfants de pratiquer hors temps scolaire des activités sportives et ou culturelles. Alors, moi, je ne sais pas si, effectivement, l'approche de cette question est, monsieur Liogé, de droite ou de gauche. Je crois qu'elle doit avant tout être pragmatique. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est un retour à une semaine allégée, avec une pause le mercredi qui permette aux enfants de se reposer et de pratiquer des activités extrascolaires à des heures normales pour des jeunes enfants. Et parce que la réussite... Parce que... Chut. Et parce que la réussite éducative passe également par l'égalité des chances, je souhaite, à l'instar de ce que préconise notre ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, que nous mettions enfin en place, comme je le demande depuis des années, sur les heures d'activité périscolaire, une aide aux devoirs pour tous les enfants, comme cela se fait... Mais est-ce que je peux parler, monsieur Gandard ? Vous n'avez pas la parole ? Je ne crois pas. Je ne vous interromps pas quand vous prenez la parole. Faites la même chose. Donc, je voudrais que l'on mette en place cette aide aux devoirs que nous demandons pour tous les enfants, comme cela se fait, justement, chez votre ami Jean-Luc Baule à Montigny-lès-Metz. Donc, c'est possible, c'est faisable. Il n'est pas normal qu'une ville qui se dise de gauche refuse depuis tant d'années, cette aide aux devoirs et ne permettent pas aux enfants plus fragiles d'avoir les mêmes chances que les autres. Et moi, je ne vous lâcherai pas là-dessus, car il en va de l'avenir de cette jeunesse. Nous devons élever le débat, aller tous dans le même sens, faire en sorte que tous les enfants, d'où qu'ils viennent, puissent maîtriser ces savoirs fondamentaux afin de lutter contre l'exclusion de ceux qui n'ont pas les mêmes facilités ni pour apprendre, ni pour comprendre, ni pour se faire expliquer, et encore moins pour se faire aider. Je vous remercie.
Merci, Madame Zimmermann.
Merci, Monsieur le maire. D'abord, Monsieur le maire, je remercie beaucoup Madame Bory et surtout les services pour ce projet éducatif de territoire. Je crois, si vous voulez, que c'est un document qui a été très bien travaillé, qui a été bien réfléchi. Et ce que je souhaiterais poser simplement comme question à Madame Bory et à vous, Monsieur le maire, bien entendu, c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité prolonger le système des rythmes scolaires. Parce que, bon, moi, je préfère avoir votre opinion que des on-dit et des on-dit et des pas on-dit, etc. Voilà. C'est votre opinion qui m'intéresse, c'est votre point de vue qui m'intéresse. Et je crois aussi, si vous voulez, que pour moi, lorsque l'on travaille sur les rythmes scolaires, lorsque l'on travaille sur le système éducatif, il y a certes les parents, merci, c'est très bien, mais il y a aussi les enseignants. Et je crois, si vous voulez, que pour moi qui étais enseignante, c'est les enseignants qui sentent le mieux ce que vivent les enfants, en sachant que le rythme de vie des enfants n'est absolument plus le même qu'il y a simplement 5 ans ou 10 ans. Lorsque vous aviez des enfants il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait un rythme de vie qui n'incluait absolument pas ni les écrans, ni les jeux, ni tout ça, où la fatigue intellectuelle joue. Donc, si vous voulez, je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a une réflexion à mener sur les rythmes scolaires, oui, mais aussi à voir comment vivent les enfants à la maison, à voir comment le cerveau de l'enfant fonctionne par rapport à ce qu'on lui demande comme travail effectif. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans ce travail, il est mentionné notamment, et alors moi, là où je suis très contente, c'est de voir comment la réflexion a été menée sur les réseaux associatifs, sur les restaurants, sur la réorganisation du pôle avec la compétence animation. Je crois que c'est un travail complet et on ne peut effectivement que être satisfaite de ce travail. Et le seul bémol que j'émettrais, c'est notamment la problématique des AVS. Parce que ça, c'est une question qui me taraude toujours. Parce que, alors ça ne dépend pas seulement de vous, je le sais, ça ne dépend pas seulement, de l'éducation, ça dépend du pôle emploi, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais c'est un problème extrêmement important, en sachant qu'aujourd'hui, il y a un nombre incalculable d'enfants qui ont un retard scolaire. Je crois qu'il faut le dire. Je crois qu'à un moment donné, la vérité, elle est là. Et il ne faut jamais cacher la vérité. Et je pense que l'accompagnement par les AVS est une nécessité. L'accompagnement et le travail effectif lorsque on fait de l'inclusion dans le système éducatif, mais c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas éviter de poser dans ce projet. Et je pense que le travail sur l'AVS est quelque chose d'extrêmement important à mener, à la fois sur la partie scolaire, mais également quel est le travail qui est réalisé entre l'AVS, entre le périscolaire, entre le cercle éducatif, le cercle familial qui aujourd'hui permet à l'enfant de se développer. Merci beaucoup.
Merci madame. Madame Sagrafena.
Monsieur le maire, chers collègues, en leur en préambule, je voulais dire qu'effectivement, si le président Macron avait laissé le libre choix aux communes de réfléchir leur rythme scolaire, c'était avant tout parce que certaines communes avaient du mal à les mettre en place et qu'il y avait des inégalités territoriales dans l'application de ce décret. Nous, à la ville de Metz et à travers ce PLDT, nous montrons notre volonté de porter une politique éducative ambitieuse pour les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Ce PEDT est un outil de dialogue. Ça, je crois qu'il doit le garder, et en ça, il est intéressant. C'est aussi un outil de proximité, puisqu'il permet aux différents partenaires de la communauté éducative de se parler et d'échanger. Et en ça, c'est vraiment un outil fédérateur. Il s'inscrit dans une cohérence éducative de rythme scolaire, de pause méridienne, de périscolaire. Et en ça, effectivement, c'est un outil qui nous permet effectivement de réinterroger différents espaces, qui permet à l'enfant de se développer. Néanmoins, il me semble que la dimension opérationnelle du PEDT demande à présent à être évaluée de façon plus fine. Est-ce que le PEDT répond à toutes les attentes des parents? Ça, c'est une question qu'il faudra poser. Le PEDT est-il investi par les enseignants et pris en compte dans la rédaction de leur projet d'école? Le PEDT, et c'était l'une des ambitions visées par le décret, a-t-il eu un impact sur l'amélioration des résultats scolaires des élèves? S'il est difficile, il est vrai, d'évaluer la fatigue des enfants, comment évaluer un épanouissement? Ça, ce sont des éléments de questions qu'il faudra nous poser au moment de l'évaluation de l'aspect opérationnel de ce PEDT. Je voulais dire aussi que dans une cohérence éducative dès la naissance, ce PEDT doit s'enrichir du PEDT prime enfance qui s'élabore en ce moment en concertation avec les partenaires éducatifs de la petite enfance. Des choix et des moyens seront alors nécessaires pour rendre véritablement opérationnel ce nouvel outil dans une continuité éducative revendiquée dès la naissance. Je vous remercie.
Merci, monsieur le maire. Ça sera très court. Je voulais déjà saluer l'outil qui est le PEDT, puisque ça nous fait émerger en tant que ville éducatrice. Et alors, vous l'avez souvent dit, vous avez souvent utilisé ce terme, ville éducatrice. Effectivement, on pense souvent, lorsqu'on l'entend, à tout d'abord l'éducation nationale. Et d'ailleurs, c'est un des partenaires importants de ce PEDT. Il y a l'éducation nationale, mais lorsqu'on n'est plus à l'école, ou lorsqu'on l'a quitté, l'école, ou lorsqu'on est plus grand, il y a aussi l'éducation populaire qui fait œuvre de ville éducatrice. Et là, dans ce PEDT, on a les deux. On a l'éducation nationale, on a la ville de Metz, on a l'éducation populaire. Et tout ça au service de quoi? Au service de l'émancipation. Alors l'émancipation, c'est vrai que c'est peut-être idéologique, j'en sais rien, mais en tout cas ça existe. Et on a des destins de jeunes qui, par des activités, par des rencontres, multiplient leurs points de vue et permettent à un moment donné de prendre un chemin qui, initialement, peut-être ne leur était pas destiné. Et cette émancipation, moi je reste persuadée qu'il faut continuellement créer les conditions favorables, que c'est notre rôle en tant que puissance publique, c'est notre rôle en tant que commune, en tant que ville de Metz, de créer ces conditions favorables. Et notamment, une des conditions favorables, je suis désolée de le redire, mais c'est d'avoir 4 jours et demi d'école par semaine. J'ai l'impression, et ça me fait rire, qu'on a l'impression que 4 jours, c'était la norme, que ça faisait une vingtaine d'années qu'on a toujours eu 4 jours, alors que c'est faux. C'est complètement faux. C'est Sarkozy qui a ramené à 4 jours alors qu'on avait 4 jours et demi. C'était le samedi matin avant, effectivement. C'était 4 jours et demi. Et l'un des avantages de ces 4 jours et demi, c'est que peu importe le niveau scolaire de chaque enfant ou peu importe leur conditions sociales, les conditions familiales, ils ont aujourd'hui, ils se retrouvent pendant 4 jours et demi au sein d'une école qui est un espace républicain neutre, où l'on donne à tous et à toutes l'occasion d'apprendre à leur rythme. Et en plus, avec le périscolaire derrière et les compétences associatives, ils sont capables de s'émanciper. Donc, maintenant, je ne néglige pas quand même, effectivement, la question de la fatigue, et y compris Daniel Bory, personne ne néglige la question de la fatigue des enfants. Rediscutons-en, mais en tout cas, pour moi, je reste persuadée que 4 jours et demi, c'est un modèle à continuer.
Oui, monsieur le maire, je voudrais insister sur un élément qui pourrait être au cœur de ce projet éducatif de territoire, c'est la question de l'éducation artistique. qui est toujours prise sous l'angle de la petite cerise sur le gâteau et que du coup souvent elle n'y est pas. Or, aujourd'hui on a une vraie préoccupation sur cette question. La ville de Metz est assez exemplaire puisqu'on a fait énormément d'actions dans ce cadre-là, y compris des symboliques comme Demos, une vingtaine de résidences d'artistes, on va en parler tout à l'heure, et d'autres dispositifs qui sont portés par les institutions culturelles elles-mêmes. Mais on voit bien que ce qui est fait aujourd'hui, ici comme ailleurs, ne touche pas 100% des enfants. Or là, on a une ouverture assez intéressante, du moins sur le papier. C'est deux ministres qui affichent comme ambition de toucher 100% d'enfants par de la pratique artistique au sein de l'école. Et à voir comment ça peut se traduire financièrement. Hier, la ministre de la Culture a annoncé plusieurs millions d'euros supplémentaires sur ce sujet-là. Mais je crois que ça doit être une action massive pour toucher tous les enfants, parce qu'on le sait, toutes les études le démontrent, l'impact de l'éducation artistique, de la musique, du théâtre, des arts visuels sur les enfants, sur l'estime de soi, sur la curiosité, la construction finalement du citoyen de demain est énorme. Et donc il faut mettre le paquet et ma chère Danielle, je pense qu'il faut le mettre au cœur de ce projet pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Et à l'heure où notre contrat d'éducation territoriale arrive à la fin en 2017, j'ai évoqué avec le maire l'idée qu'on remette le paquet avec la renégociation d'un nouveau contrat d'éducation territoriale. On va le faire avec la DRAC, avec l'éducation nationale. Et on a besoin de l'ensemble des acteurs et de l'ensemble des collectivités locales, notamment sur la continuité finalement entre le primaire et le collège, où aujourd'hui on se retrouve dans une forme de rupture, puisque finalement les enfants, une fois qu'ils arrivent au collège, il y a peu de choses qui se font. Donc il faut qu'on arrive à mettre le paquet pour que ce soit cohérent, parce que je le rappelle, la loi de 2013 a inscrit les parcours artistiques au cœur de l'enfant, mais malheureusement ce n'est pas toujours assuré. Il faut qu'on ait cette ambition collectivement pour arriver à former les citoyens de demain à l'art et à la critique de la société et du monde par la culture et par l'art.
Corrie, pour apporter quelques éclaircissements ou réponses.
Écoutez, d'abord, le projet éducatif de territoire, effectivement, c'est un outil qui a permis de mettre autour de la table toute la communauté éducative pour réfléchir à un projet, justement pour avoir une cohérence éducative et effectivement pour faire des liens entre les différents espaces de l'enfant. Oui, il y a les enseignants ont participé, les parents ont participé, il y a eu une participation de nombreuses personnes de la communauté éducative. Alors l'évaluation, on est en train de la faire, l'évaluation de la réussite scolaire, ça c'est pas le PEDT, en tout cas ne peut pas le faire comme ça, c'est l'éducation nationale. Et je rappelle simplement que le PEDT existe depuis 2013 et que c'est un peu difficile de faire une évaluation aussi avec aussi peu de temps. Voilà, je pense que l'évaluation demande du temps et les résultats demandent aussi du temps. C'est à l'éducation de faire ça et on va demander de le faire. Moi, je reviens sur sur les rythmes parce qu'effectivement, ça fait partie effectivement du projet éducatif de territoire. D'abord, je répondrai que M. Blanquer effectivement a dit qu'il fallait faire de l'aide aux devoirs, sauf qu'il a dit que ça devait se faire pendant le temps scolaire, c'est-à-dire que les enfants devaient sortir de l'école sans devoir. Donc finalement, ce n'est pas aux collectivités de prendre en compte ce dispositif. Voilà. Deuxièmement, moi, je suis contente que ma collègue Margot-Antoine Fabry a dit ce qu'elle a dit, parce qu'effectivement, je pense que si on n'a pas changé les rythmes scolaires, c'est parce qu'effectivement, vous avez vu le décret est paru le 27 juin, qu'il est difficile de réorganiser toute une rentrée en deux mois, mais c'est surtout parce qu'on croit aux 4 jours et demi. On croit aux 4 jours et demi et je crois savoir que c'est nettement plus propice pour les apprentissages et que c'est certainement plus propice pour les apprentissages pour les enfants fragiles, justement. Et je crois que si tous les enfants nous intéressent, bien entendu, les plus fragiles doivent encore plus nous mobiliser, parce que je pense que l'école doit être aussi un lieu de fraternité. La fraternité, c'est justement d'essayer que les plus forts attendent ou aident les plus faibles. Voilà, donc je pense que c'est 4 jours. Alors, je ne suis pas, d'ailleurs, 4 jours et demi, je ne suis pas la seule à dire que c'est mieux. Hein. Je rappelle simplement, il y a d'autres personnalités experts qui l'ont dit. Alors, et pas des moindres, hein. Je dis en 2010, le directeur général de l'enseignement scolaire, qui est aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, en parlant de la semaine de 4 jours, a dit « Tout cela a été rendu possible parce que le monde des adultes s'est entendu sur le monde des enfants. » Ensuite, en 2012, un groupe de travail, les élèves au cœur de la refondation, présidé par Agnès Buzyn, aujourd'hui ministre de la Santé, ce groupe de travail s'est penché sur les rythmes et a demandé de revenir à la semaine de 5 matinées en disant « En primaire, le nombre d'heures de cours ne doit pas excéder 5 heures par jour et augmenter à l'école primaire le nombre de jours de classe par la mise en place d'une semaine de 4 jours et demi. » Autre, l'Institut Montaigne, qui a, je crois, fortement inspiré le président actuel, disait en 2010 qu'il fallait revenir immédiatement à la semaine de 5 jours. Et je ne parle pas de l'Académie nationale de médecine, je ne parle pas de Luc Châtel qui avait réuni une conférence nationale en 2011 et qui disait « la semaine de 4 jours à l'école primaire est inadaptée, trop longue et trop fatigante ». Ni de Michèle Tabarot, députée LR, je ne sais pas si elle l'est encore, présidente de la mission parlementaire d'information sur les rythmes de vie scolaire, concluée en 2010, la semaine de 4 jours devrait être interdite. Qu'est-ce que je voulais que je dise à tout ça ? Je pense qu'effectivement, je ne suis pas insensible à la fatigue des enfants, bien entendu, mais je pense que ce ne sont pas les 4 jours, et je suis assez d'accord avec Madame Zimmermann, qui dit que... En fait, les enfants passent 10% du temps à l'école. Donc, il faut penser aussi le temps qu'ils passent en dehors de l'école. Et donc, pour effectivement avoir une vraie réflexion sur le sujet des 4 jours et demi. Et puis, ne faisons pas comme si cette semaine n'avait jamais existé à 4 jours et demi, puisque moi, quand j'allais à l'école... Alors, c'était le samedi. Attendez, moi, je vais vous dire, parce que finalement, le bénéfice de l'âge me fait dire quand même que moi, j'allais à l'école même le samedi après-midi. Voilà, et c'était le jeudi, voilà, et que ça ne nous rajeunit pas, et que j'ai été aussi mère, je suis aussi mère, et que quand mes enfants étaient en âge primaire, ils allaient à l'école le samedi matin. Donc ne faisons pas comme si rien n'avait existé. Maintenant, effectivement, je pense qu'on doit avoir une réflexion sereine, comme je l'ai dit dans la presse, et qu'effectivement, rien n'interdit qu'on revienne au samedi matin. Voilà, donc, d'accord. Mais il faut qu'on réfléchisse sereinement sur cette question et pas de façon passionnée ou passionnelle, j'en sais rien, et pas sur sans se poser sur la question de la fatigue, qui est une question mais qui ne dépend pas que des rythmes scolaires. Et voilà. Et maintenant, je n'ai rien à.
Madame.
Et les AVS.
Madame Bory, merci de vos explications. De toute façon, c'est un sujet. Nous sommes tous pour le bonheur des enfants, et après ça, c'est de savoir comment. Vous savez, moi, je connais des enseignants, comme me disait d'ailleurs Charles avec moi, ils font tous leurs cours à l'université le même jour, ils font 8 heures de cours de suite parce que ça les arrange, parce qu'après ça, ils sont tranquilles pour le reste de la semaine. Mais bon, on ne peut pas non plus faire uniquement les choses qui arrangent les uns et les autres. Et donc, moi, je n'ai pas la science infuse en domaine de l'éducation, je suis bien moins doué que Daniel Bory, mais vraiment, le souci des enfants, c'est le principal. Et... Moi, je n'ai simplement que 12 petits-enfants. Je vois le temps qui passe devant les écrans maintenant, mais c'est complètement terrible parce qu'on ne connaissait pas ça. Et on faisait tout le temps du sport, on sortait, on jouait à des jeux de société, etc. Maintenant, ils sont tous devant leurs écrans. Et je ne dis pas que c'était mieux avant, je dis que c'est différent. Et l'école est là au milieu du reste. Et donc, moi, je suis très sensible à tout ce que vous dites les uns et les autres, mais je suis prêt à ce que ça nous coûte un peu plus cher et que ça n'arrange pas forcément tout le monde si ça va dans le sens de l'intérêt des enfants. Et pour l'instant, c'est le sentiment que j'ai. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Il faut bien définir une politique. Et je remercie les uns et les autres d'avoir approfondi ce sujet. et d'avoir lu. Alors, vous avez une réponse, oui. On va donner une réponse.
Les AVS.
Allez-y, madame.
Oui, alors sur les AVS, vous savez que ce n'est pas nous qui avons la maîtrise des AVS parce que c'est aussi. Oui, mais c'est aussi la MDPH. C'est aussi la MDPH, c'est-à-dire que ce sont des préconisations de la MDPH. Donc, c'est oui, une prescription de la MDPH. Donc, après, quand la MDPH. Et après, c'est l'Éducation nationale qui en recrute les AVS. La simple chose que je peux vous dire, c'est que quand les AVS sont d'accord, et quand on a des enfants porteurs de handicap, ou qui, enfin, voilà, puisque de toute façon, c'est des enfants qui sont porteurs de handicap, que ce soit physique, mais aussi comportemental. Hein. Quand les AVS sont d'accord, nous, on recrute ces AVS pendant la pause méridienne. Voilà. Et on les, mais il faut qu'elles soient d'accord parce qu'on ne peut pas leur imposer. Et ça arrive bien souvent. Voilà.
Voilà. Et alors, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Ce rapport est adopté.